Salut tout le monde, c'est FF Fanatics et vous écoutez le deuxième podcast de Finaland. Merci à tous de nous rejoindre pour ce nouveau podcast. Cette fois, nous allons parler des nouvelles conventions qui ont eu lieu récemment dans le monde, en commençant par la Gamescom, bien sûr, en Allemagne, et le Tokyo Game Show au Japon. Et pour parler de toutes ces actualités de Square Enix dans le monde, avec beaucoup de jeux qui ont été annoncés et d'informations qui ont été révélées, nous avons une nouvelle équipe autour de la table, enfin plus ou moins nouvelle, car nous avons quand même un ancien qui était là pour les podcasts, c'est Fat Chocobo.
Hello à tous.
Ah, Fat Chocobo, t'es en forme?
Tranquille, je vais bien, j'ai bien mangé.
Tu manges toujours bien, toi?
T'inquiète.
Tu vas pouvoir nous parler de ton voyage à la Gamescom, vu que t'es un petit peu l'envoyé spécial là-bas.
Eh ouais, une super Gamescom.
Tu pourras nous expliquer un petit peu ce que t'as vu, notamment sur FF15. On verra ça plus
tard.
C'est bien ça. Autour de la table, nous avons également un petit nouveau de la Team Finaland. Vous avez pu voir peut-être si vous visitez souvent le site. C'est notre nouveau newsmaker, en fait. Il s'appelle Monsieur Cloud.
Salut tout le monde.
Bienvenue dans l'équipe, Monsieur Cloud.
Bah, merci. Merci beaucoup.
Tu t'y sens bien? T'as bien été intégré? Ça va?
Ça va. Au début, je sentais que j'avais peur d'un bizutage et tout, tu vois. Mais finalement, c'est passé nickel.
Attention à ce que tu dis quand même, parce que bon...
Oula.
Non, t'inquiète pas, on va être gentil avec toi. Et pour ce nouveau podcast, on a un invité exceptionnel qui vient pas de Finaland, qui vient de la communauté. Si vous lisez un petit peu les sites FF, vous devez le connaître à mon avis, parce qu'il vient quand même d'un gros site concurrent et ami. C'est l'ami Sky Pirate de Final Fantasy Dream.
Bonjour à tous, merci de m'avoir invité.
Je t'en prie, on est très très heureux de t'accueillir dans ce podcast. On va parler beaucoup de FF15, et comme on sait que t'es un grand fan déjà de ce jeu avant même sa sortie, on a pensé à toi.
Oui, je suis fan depuis le premier jour, depuis 9 ans maintenant.
Donc voilà, avec cette petite équipe, aujourd'hui on va revenir sur les grands jeux des derniers mois. On va terminer sur un focus sur FF15. On va commencer directement avec un retour sur les dernières annonces qui ont notamment eu lieu lors du Tokyo Game Show, qui s'est terminé il y a quelques semaines. Nous avons eu quand même quelques belles surprises lors de ce Tokyo Game Show, avec quelques informations importantes, et notamment l'annonce d'un nouveau Kingdom Hearts. Un nouveau Kingdom Hearts qu'on n'attendait pas forcément.
Plus ou moins nouveau Kingdom Hearts.
Un portage de remake en quelque sorte. Enfin, on n'attendait pas trop, c'est un Kingdom Hearts qui va sortir cette fois-ci sur PS4, une nouvelle compilation. Qui regroupera donc, tu peux nous rappeler ça Samir un petit peu, de quoi ça parlera ce Kingdom Hearts?
Bien sûr, alors cette nouvelle compilation appelée Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, oula, est composée de Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance, Kingdom Hearts Unchained Key, Back Cover, et enfin l'étrange Kingdom Hearts Birth by Sleep 0.2.
Voilà, ce sera cet épisode qui s'appellera Birth by Sleep, A Fragmentary Passage. Qui reprendra en fait après la fin de Birth by Sleep et avant, qui servira de prologue à KH3 et qui mettra en scène Aqua. Donc toi, Sky Pirate, qu'est-ce que t'as pensé de cette nouvelle annonce de compilation Kingdom Hearts, si t'aimes bien un petit peu cette saga?
Disons que le premier élément important, c'est que cette compilation permet aussi de faire le clair sur la date de sortie de KH3 et de comprendre que l'an prochain, c'est KH2.8 qui sera à l'affiche et pas KH3, comme on pouvait un peu l'imaginer, en croyant que le projet est extrêmement avancé. Il n'est pas autant qu'on l'imagine. Autrement, c'est une surprise sans en être une, dans le sens où déjà à l'E3, il y avait eu un petit quiproquo, en tout cas une petite erreur de leur part sur le planning, où on avait pu lire un KH2.9 sur le planning de l'E3. Et puis, quelques jours avant le TGS, on a eu un ex-game designer de chez Square qui a leaké sur sa page perso qu'il avait travaillé justement sur un KH2.9, jusqu'à l'annonce lors de l'ouverture du salon. De cet épisode qui pour la première fois intègre par rapport à 1.5 et 2.5 un fragment qui est complètement inédit et qui fera le pont entre ce qu'on connaît de la série et le troisième épisode canonique.
Exactement, c'est un très bon résumé. D'ailleurs, ce petit prologue qui sera très très court mettra pour la première fois en avant les nouvelles technologies qui seront utilisées pour KH3. Donc ce sera vraiment un avant-goût de la suite de la saga, en tout cas de la suite du prochain épisode. Et ce sera vraiment un petit peu comme la manière de Ground Zero pour la saga Metal Gear Solid, qui avait aussi eu un petit prologue pour un petit peu montrer ce dont était capable MGS5. Là, on aura également voilà, ce petit épisode pour se préparer à la suite.
C'est pas forcément une bonne nouvelle si on compare à Ground Zero.
Ah, pourquoi ?
Bah, personnellement, pas. Bah après, c'est mon avis. La démo, enfin, Metal Gear Solid 5 Ground Zero, même si c'était très sympa de retrouver Snake, était pas forcément très très utile. C'est a voulu mettre, surtout pour le prix d'un, surtout pour le prix quoi. 30€ pour finalement une heure de gameplay avec environ 10 minutes de scénario, c'est rien.
On s'est senti un peu lésé, c'est vrai que c'était super cher pour une démo en quelque sorte, parce que les gens ont pris ça pour une démo.
C'est concrètement une démo quoi, c'est ça.
Ouais.
Et personnellement, le Kingdom Hearts Birth by Sleep 0.2, enfin comment ils le vendent, j'ai l'impression que c'est le Ground Zero de Kingdom Hearts 3. Même moteur pour faire montrer à quoi ça ressemble, avoir des premières bases du gameplay. Sûrement, ça date sûrement ça, mais.
Bah c'est ça.
Mais après, voilà.
À la base, ils voulaient le mettre dans KH3, au début du jeu. Mais...
Ouais, bah, le Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, le noir allonge, est vendu quand même 59,99€, donc à plein pot. C'est. Je trouve ça un peu beaucoup quand même.
C'est vrai que pour un portage d'un jeu de 3DS plus des cinématiques d'un jeu mobile et enfin une démo voilà quoi.
Même KH1.5 et 2.5 avaient une enfin pour l'instant on n'en sait pas trop sur 0.2 même si ce serait la durée d'un monde Disney, mais 1.5 et 2.5 tu cumulais les deux gros jeux, bah t'avais une grosse durée de vie quoi, et là t'as 3D bon voilà quoi, c'est pas
ah ouais.
Ça reste à voir.
C'est pas folichon.
Bah, KH3D était le seul à pas avoir eu de remake HD, donc c'était évident qu'il n'en a rien, mais après, c'est vrai qu'à ce prix-là.
Bah, après, oui, c'est vrai que KH3D était beaucoup trop important dans le scénario pour qu'il le laisse. Donc, c'est vrai qu'un remake était très très probable.
Nomura l'avait même un peu hinté, enfin, il l'avait dit un peu à travers certaines interviews que ça allait sûrement venir. Donc, bon.
Il avait aussi, Tetsuya Nomura, le producteur de KH, avait quand même, il y a quelques mois, renoncé à l'idée d'un remake pour KH 3DS, dans la mesure où il disait que ça pourrait ralentir KH 3. Donc c'est vrai que, enfin moi mon sentiment c'est que l'idée d'une troisième compilation, elle est assez récente. Ou en tout cas que son véritable contenu, le fait qu'elle intègre une espèce de démo à KH3, c'est une pirouette marketing pour occuper la scène KH en 2016. Je crois qu'il y a une volonté de ne pas laisser de vide et de faire en sorte qu'il y ait du KH l'an prochain, parce que le KH Chi sur mobile suffira pas à faire la promotion de KH3.
C'est ça, c'est en attendant le KH3 qui, d'après les dernières nouvelles, arrivera plus tard que prévu. Le plan est un peu plus long.
2017 au mieux. Et voilà. ce qui est important, même si on ne peut que se fier à la rumeur qui est arrivée justement avant l'annonce de la compilation, sur le profil justement de l'ex-game designer, il expliquait quelques-unes de ses attributions. Et il précisait justement qu'il avait travaillé sur le système d'attraction flow, qui est justement une des features principales de KH3. Pour le compte de cette compilation 2.8. Donc, même si effectivement on nous annonce une durée de vie équivalente à un monde Disney, donc environ 2-3 heures, si on fouille vraiment à 100%, on aura, je pense, un bon aperçu du potentiel du jeu, à la fois sur le plan graphique, puisqu'il tournera sur l'Unreal Engine 4, qui est le moteur du jeu, et sur le plan du gameplay avec les principaux éléments de KH3.
Très bien, merci beaucoup. Après, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que cette compilation sorte sur PS4 alors que toutes les autres sorties sont sur PS3. Donc c'est ouais, mais
Bah après,
c'est ajouté.
après c'est
Moi, je suis
lié
assez
bah, au
surpris.
0.2, hein, parce que
Ah oui.
0.2 utilise la technologie de Unreal Engine 4, donc uniquement sur PS4. Si on le vendait sur PS3, on ferait abstraction justement de de Burst Massive 0.2, et je sais pas si ça vaudrait le coup, quoi.
Bah, moi, je suis assez surpris qu'ils aient pas annoncé le 1.5 et 2.5 sur PS4. Ils ont bien annoncé un FF10 HD sur PS4, alors pourquoi pas ces deux compilations, quoi.
Alors,
Surtout que.
est-ce que c'est pas prévu pour le futur, justement? Peut-être
Ah, peut-être,
qu'ils préparent
voilà, juste,
ce
voilà,
serait
peut-être
Kingdom Hearts
grosse
2.9.
compilation.
2.95.
Parce que
Peut-être, hein.
concrètement, Nomura, il avait dit récemment comme quoi il souhaitait que toute la licence soit réunie dans une seule et même console.
C'est ça.
Donc, voilà. Si la troisième compilation est sur PS4, normalement les deux autres devraient venir et ça m'a surpris qu'il ne l'ait pas annoncé. Peut-être plus tard, c'est vrai.
Vous imaginez un peu le collector avec tous les caches sur PS4 là.
Là, j'avoue que
Ça
moi, je serais un câble.
ferait rêver, hein.
Ah oui, là, j'aurais plus de portefeuille.
Ah, c'est sûr que pour le portefeuille, c'est pas terrible. On va passer à la suite. On a bien parlé de Kingdom Hearts, donc on sait maintenant ce qui nous attend pour l'année prochaine. Il y a un autre jeu qui est attendu aussi bon, très bientôt et qui est aussi une grosse licence de Square Enix, c'est Star Ocean. Star Ocean qui revient avec un nouvel épisode, le cinquième épisode, Star Ocean 5. Donc là, ça fait quelques temps déjà qu'il était annoncé et qu'on a eu des informations, mais il est vraiment revenu en force lors du TGS avec du gameplay et des vrais trailers. C'est plutôt encourageant ce qu'on a vu. Tu peux nous dire un petit peu, Sky Pirate, ce que tu as ressenti?
Tokyo Game Show, donc, c'était l'occasion pour Square Enix de montrer le jeu au public pour la première fois, dans le sens où les visiteurs avaient des bornes jouables pour pouvoir l'essayer. C'est quand même une bonne nouvelle d'avoir un cinquième épisode, parce que si on se rappelle bien du début d'année, Treehouse s'est un petit peu condamné, on le condamnait à des productions mobiles, et puis il y avait eu des teasings ces dernières années qui laissaient à penser que Star Ocean était de retour, mais il n'y avait rien du tout au bout du compte. Et là, donc, il y a un cinquième épisode qui est annoncé, qui est revendiqué clairement comme un retour aux sources par son équipe de développement, dans le sens où le quatrième épisode avait pas mal déçu, aussi bien, enfin, ça avait été une déception à la fois au niveau de la critique que sur le plan commercial. Et avec Star Ocean 5, il y a un vrai retour aux sources au niveau du gameplay, ce qu'on a vu a l'air extrêmement dynamique. La direction artistique, elle est sublime, même si moi, sur le plan technique, j'ai mes quelques doutes. Mais on est sur un épisode qui sera cross-gen au Japon, donc PS3, PS4, et qui sera bien évidemment porté exclusivement sur PS4 en Occident un peu plus tard, donc après février.
Ok, merci beaucoup. Ça, c'est quelque chose à ajouter, peut-être, Monsieur Cloud, sur Star Ocean 5?
Bah, personnellement, je connais pas assez la série, en fait. Personnellement, je la connais que de nom. De ce que j'ai vu des trailers, bah, personnellement, ça fait plaisir de voir un RPG, plus ou moins triple A, qui sort de la part de Square Enix. On a eu pendant un moment des portages, des remakes et tout, c'était assez fatigant. Et là, enfin, quelque chose d'assez important qui est à venir. Et en plus, ils l'ont annoncé, enfin, concrètement, ils l'avaient officialisé, début d'année, et là ils viennent d'officialiser une date de sortie, donc ça va, c'est pas c'est vraiment convenable pour une attente par rapport à FF15 par exemple.
Ouais, et puis
Après.
d'après les fans de la saga, ils attendent plutôt ce jeu parce qu'il a l'air de vraiment revenir aux sources.
Après,
C'est encourageant.
graphiquement, je suis aussi un peu enfin bidatif, la direction artistique est vraiment excellente, mais par contre, techniquement. Voilà, c'est de la crosse PS3, PS4, c'est pas folichon tout ça, c'est pas assez incroyable. Et dans le gameplay, j'ai trouvé ça assez bordélique, personnellement. La caméra bougeait assez souvent. Après, je sais pas si c'est le style du gameplay et tout, je me suis jamais vraiment intéressé.
Le côté cross-gen, ça montre aussi que Square est encore assez frileux au niveau du Japon
Oui.
et n'a pas assez confiance au potentiel de Star Ocean pour se permettre de le sortir uniquement sur
PS4.
PS4. Au niveau du gameplay, de ce qu'on a vu dans les trailers, on l'a pas encore vu manette en main, mais on peut s'attendre à du 7 personnages qui peuvent combattre en même temps. On a des effets de lumière, on a des combos dans tous les sens. Les fans, en tout cas, ont l'air vraiment rassurés par ce qu'ils ont vu. Le jeu il sort le 25 février, donc c'est clair qu'on est quasiment à même pas une année entre l'annonce et la sortie, ce qui devient inhabituel pour Square Enix, qui est habitué à des annonces très prématurées. Donc, et pour les retours liés au TGS, les seuls points négatifs qui ont été mis en avant, c'est d'une part un jeu qui n'est pas toujours très fluide, mais en même temps c'était une version un peu préliminaire, donc ils ont le temps
ça, c'est pas forcément un problème.
De travailler dessus, et une caméra qui est un peu capricieuse et qui peut donner justement cette impression de combat bordélique. Mais pour connaître un peu la licence, même si visuellement ça peut partir dans tous les sens, on est généralement on sait ce qu'on fait et on sait où on va, et mais effectivement je pense que c'est juste un effet par rapport aux effets de lumière, qu'on a le sentiment sur le papier que c'est un peu bordélique, mais c'est du action RPG à l'ancienne, comme Square Enix sait bien le faire. Et je pense qu'on peut avoir une très bonne surprise. Et en tout cas, l'un des très bons JRPG de l'an prochain, c'est Star Ocean 5.
On espère. Surtout que le 4 avait un petit peu déçu. Donc on attend que cette saga se relève. Pourquoi pas que celui-ci, il est vraiment intéressant.
Ouais, ils ont attiré ma curiosité, en tout cas, sur la saga.
c'est déjà ça. On va continuer avec un nouveau jeu qui est tout récent et qui sort déjà aussi l'année prochaine. Un jeu qui est encore un petit peu mystérieux, mais qui en même temps se montre ambitieux. C'est Ikeni to Yuki no Setsuna, un nom très japonais, dont Fat Chocobo va un petit peu nous parler.
Ouais, donc Ikeni to Yuki no Setsuna, c'est le JRPG du studio Tokyo RPG Factory, donc qui a été, il me semble, créé par Square Enix. Il a été dévoilé à l'E3 dernier, en tant que Project Setsuna, il a enfin eu son nom officiel japonais au TGS. Donc on a eu un très beau trailer, enfin, en tout cas qui montre quelques aspects du jeu. Moi, ce qui m'a surtout plu dans ce trailer, c'est la musique. Le site web, justement, a mis deux musiques en ligne, que je trouve magnifique, et j'ai hâte en tout cas d'en savoir plus sur le compositeur et aussi sur l'histoire, car bon, on a un héros qui n'a pas vraiment de nom et on a un personnage qui s'appelle Setsuna. Bon, après, on n'a pas vraiment énormément de détails sur l'histoire, donc c'est quelque chose à. Ça a piqué ma curiosité et j'ai envie d'en savoir plus.
Et toi, Skypira, de ton côté, t'as un petit peu vu ce que ça a donné, ce nouveau Setsuna, ce nouveau jeu RPG mystérieux ?
Ouais, mais il faut dire qu'en fait, tout au long des premiers mois de l'année 2015, Yosuke Matsuda, le PDG de Square Enix, teasait justement le fait que Square Enix était investi à 100% sur le marché du JRPG et annonçait, teasait le titre. Donc c'était le clou du spectacle de l'E3. Au TGS, on a pu voir un peu de gameplay. Moi, j'ai surtout été charmé par la direction artistique, qui est vraiment sublime. C'est des vrais tableaux. Ce qu'on a vu du gameplay a l'air assez traditionnel, mais on ne lui en demande pas davantage. Donc, je pense que c'est un titre qu'on peut surveiller et qui pourrait être une excellente surprise. Moi, au niveau des graphismes, de la réalisation, ça m'a rappelé certains tableaux de Bravely Default qui était magnifique. Donc je pense que on peut avoir une bonne surprise avec Setsuna.
Ouais, puis c'est le genre de jeu qui plaise, hein. C'est le genre de graphisme, ça plaît beaucoup au public. Donc...
Après, en tout cas, pour le cas de Setsuna, il est prévu en tout cas pour PS4 et PS Vita, mais personnellement, je le vois plus sur PS Vita.
Oui, bien sûr, oui. Sa réalisation n'est pas de next-gen, mais... l'intérêt un peu ailleurs, mais c'est une bonne idée de le proposer sur Vita. Je pense que sur Vita au Japon, il va avoir un succès assez important.
Je pense aussi. Mais en tout cas, avec Setsuna, on tient peut-être une belle future licence. Par contre, moi, il y a un truc qui me fait un peu peur, c'est que j'ai pas aimé Bravely Default, donc est-ce que je vais aimer Setsuna ?
Moi, je faisais l'analogie par rapport au graphisme, mais au niveau de l'esprit, je pense que ça n'a vraiment rien à voir. On ne sait pas grand-chose du background, on sait simplement qu'il y a Setsuna qui protège son île, et elle est accompagnée, enfin, elle est aidée par le héros qui n'a pas de nom, qui n'en a peut-être pas, et qu'on pourra renommer comme on le souhaite. Et au niveau des interviews qu'on a pu lire, les producteurs du jeu, ils souhaitent vraiment faire une nouvelle IP, donc je pense qu'ils sont assez ambitieux à ce niveau-là, ils savent qu'ils ne peuvent pas se rater, Mais je pense qu'un peu à l'image de Bravely, Square Enix essaie vraiment d'alimenter le vivier du JRPG au-delà de leurs licences habituelles, que sont FF et Drac. Et je pense qu'ils peuvent réussir de belles choses s'ils donnent les moyens de faire en sorte que Setsuna soit de qualité.
Ouais. Et d'ailleurs, je pense pas que le nom Ikenite Yuki no Setsuna soit le nom du jeu en Europe et
Il
en
y a
Amérique.
Yam Setsuna là, qui a
Ouais.
leaké dernièrement.
Justement, donc je pensais à ça. Est-ce que c'est le nom occidental du jeu
Il y a
pour
des chances que
nous
ça
ou est-ce
change,
que
ouais,
c'est
c'est
une
sûr.
suite? Alors voilà. On attend des infos.
Affaire à suivre donc en 2016 sur PS4 et PS Vita. Prochain jeu auquel on va parler, c'est encore une petite surprise. Ça concerne un jeu qu'on connaît déjà bien dans le monde, qui s'offre un nouvel opus mystérieuse. Final Fantasy Type Zero Online. Voilà, Type Zero qui revient cette fois dans un mode complètement jeu en ligne sur PC et smartphone. Donc c'est pas forcément une annonce qu'on attendait vraiment, mais c'est toujours bon à prendre. Qu'est-ce que t'en penses, Monsieur Cloud, de ça?
Personnellement, c'était pas forcément l'annonce qui m'a le plus intéressé durant ce game show. Je crois que j'ai même vu le trailer très très récemment, quoi. J'avais totalement zappé le truc. J'ai pas trouvé d'une grande utilité à avoir fait un jeu online sur mobile. Si c'est, enfin, je sais, ils ont récemment annulé un autre jeu de la licence, FF7-0, pour en faire un autre sur mobile.
C'est Agito qui est annulé, hein, en fait.
Agito qui est annulé, c'est bien
Agito
ça.
Plus.
Et finalement, ils ont annulé pour en sortir un autre sur mobile. Je vois pas trop la logique et l'utilité. Et en plus, il n'y a pas grand-chose à dire personnellement sur ce qu'on a vu dans le trailer. Ça a l'air d'être un jeu mobile tout à fait classique dans l'univers d'FF Type Zero.
Alors juste, c'est pas que mobile, il sera aussi disponible sur PC. Et
D'accord.
c'est pas développé par Square, mais par l'entreprise Perfect World, qui est très connue dans le monde du MMO pour avoir créé justement un des grands succès du MMORPG qui s'appelle Perfect World.
Ah oui, je connais.
Voilà. Sky Pirates, quelque chose à ajouter?
Oui, bah, disons que Agito porte vraiment malheur à Square Enix parce qu'à l'origine, le Type Zero qu'on connaît, enfin, sous le nom Type Zero HD, c'était Agito 13 qui a été
Voilà.
annulé. Il y a quelques temps, il y a un an et demi, ils ont justement annoncé Agito simplement, qui était un jeu iOS Android qui est sorti au Japon, qui a connu 2 saisons avec un succès intéressant. Ils souhaitaient le poursuivre avec Agito Plus, qui était la version Vita du jeu mobile en question. Ils ont eu des gros problèmes au niveau de l'infrastructure, donc ils ne pouvaient pas travailler dessus correctement. Ils ont essayé de travailler avec Sony, mais ils n'ont pas trouvé de solution. Et après plusieurs mois de silence, ils ont simplement annulé le jeu, qui cessera de fonctionner fin novembre au Japon, pour créer ce Type Zero Online, qui fonctionnera à la fois sur mobile et sur PC. Donc je pense que le but c'était vraiment de faire table rase pour avoir une infrastructure solide et trouver le moyen justement de faire en sorte que l'Occident puisse s'y essayer, mais je pense que Square Enix n'y croit plus vraiment non plus, parce qu'ils l'ont annoncé rapidement en début d'ATR, comme
Voilà, c'est vrai.
Tabata l'a dit lui-même, hein, j'ai pas envie de rester sur une mauvaise note, donc je vous annonce un jeu qui est sous-traité de A à Z dans l'univers d'Oriance. Mais je crois sincèrement que Type Zero Online, sauf surprise, enfin, ce sera compliqué pour lui de se faire un vrai chemin.
Bah, alors, en Chine, s'il sort en Chine, il pourra sûrement marcher avec la renommée de Perfect World de l'entreprise. Mais c'est vrai que au Japon, enfin au Japon peut-être, puisqu'il a eu, comme tu l'as dit, Sky Pirate, un bon succès au Japon. Mais après en Occident, ouais, c'est le grand mystère.
Une obstination quand même hein, sur ce projet. Quand on voit effectivement Type Zero Agito, Agito a été annoncé à l'E3 hein, tout de même 2014. Il l'avait mis en avant plutôt que de choisir Type Zero, donc c'était une décision marketing pour finalement l'annuler un an plus tard. Ils ont vraiment des difficultés à exploiter la licence comme ils l'entendent et. Il faudra voir ces prochains mois ce que vaut vraiment Type Zero Online. La vidéo qu'on a vue n'en dit pas suffisamment et je pense qu'ils ne prendront pas le risque de l'associer à nouveau trop profondément à 15 au niveau de la communication.
Après, si je me trompe pas, il y avait un mode en ligne sur le Type Zero, version japonaise à l'époque, sur PSP.
Oui, qui a été supprimé. pour la version HD, ouais.
Donc voilà, c'était un petit peu pour un petit peu une renaissance pour ce mode en ligne, peut-être qu'ils ont fait ça, je sais pas.
Bah après, je sais pas si le mode online de la version PSP était utile. Enfin, j'ai pas joué à la version japonaise.
Grosso modo, ce qu'on a dans la version HD qui permet d'appeler justement des personnages qui ont les noms des producteurs de Square Enix, on pouvait appeler justement des personnages, enfin d'autres joueurs pouvaient nous aider dans la partie, intégrer la partie. Ce qui a été supprimé évidemment avec le mode ad hoc spécial de la Vita, de la PSP à l'époque.
Ouais, exact. Bon, bah, on verra bien, de toute façon, c'est un jeu smartphone, donc c'est pas forcément indispensable, mais pour les fans de Type-Zero, ça peut être sympa.
C'est vrai que l'univers de Type-Zero est pas. Enfin, il est quand même assez intéressant, même si je trouve qu'il est tiré par les cheveux à certains moments. Enfin, l'histoire, quand j'ai joué à Type-Zero HD, l'histoire est triste à la fin, mais après.
C'est un univers qu'on retrouvera dans le futur, donc je pense qu'ils vont pas s'arrêter là, c'est sûr.
Ah, j'espère. Il y a du potentiel derrière cet univers, même si c'est vrai que c'était assez tiré par les cheveux à la fin.
On va pas non plus spoiler, attention.
Gaïa, ça m'a laissé dubitatif.
On va enchaîner sur. Là, je vais laisser la parole à Fatshuko, parce que c'est lui l'expert. On va parler de Final Fantasy XIV, toutes les nouveautés qu'il y a eu.
Ouais. Donc, pendant le Tokyo Game Show, il y a eu la 25e lettre live du producteur, représentée par Yoshida. Et ils ont enfin présenté un peu plus le patch 3.1 qui est nommé As Goes Light, So Goes Darkness. Très inspiré de Kingdom Hearts, la lumière et des ténèbres. Dans ce nouveau patch, on aura déjà un nouveau jeu, mini-jeu pour le Gold Saucer, donc le choc des mascottes, ou Lord of Vermilion en anglais, qui en gros est une arène où les mascottes s'affrontent. C'était de base un poisson d'avril et qui est devenu réel, c'est assez sympa d'ailleurs. Donc j'ai hâte d'en savoir plus, les prix des mascottes vont augmenter, par contre ça va un peu m'énerver. Sinon quoi d'autre, il y aura aussi donc le nouveau raid de 24 joueurs qui va remplacer la tour de cristal, donc l'arche du néant. Très mystérieux, on n'en sait pas énormément. Et il nous manque également le nouveau primordial. Donc on ne sait toujours pas qui c'est.
Ah,
et c'est frustrant, c'est très frustrant, même s'il y a eu un event dernièrement pour les 2 ans du jeu. Où les développeurs étaient transcrits en tant que PNJ dans le jeu, sachant que en fait la version française et anglaise n'ont pas les mêmes traductions, donc il fallait plus se focaliser sur la version anglaise parce qu'il se permettait plus de liberté. Et on retrouvait des noms comme Doom Train, donc le L Train en français sur FS8. Est-ce que ce serait le nouveau primordial? Grand mystère, grand grand mystère.
Ouais, c'est pas mal tout ça.
Et également, il y a d'autres nouveautés comme l'exploration avec le vaisseau de compagnie, de nouveaux objets et la suite de l'histoire, l'épopée, qui est de plus en plus passionnant. Donc, on a hâte d'être novembre.
En tout cas, toi, t'es vraiment à fond dedans, ça, on le sent.
Bah, alors, je suis à fond, mais en ce moment, j'ai pris une grosse pause parce que, en fait, on a le même contenu depuis juin-juillet. Là, ça fait déjà plus de 3 mois et t'as déjà fait le tour. Donc t'en as marre en fait. Donc t'as envie de faire une pause pour revenir en force à la mise à jour. Surtout qu'en plus on va enfin avoir les serveurs européens là. Ça arrive le 19 octobre. Donc fini le lag sur les landslides de Titan ou les AOE, enfin les attaques de zone. Donc FF14 se bonifie de jour en jour.
C'est tant mieux. On va maintenant parler de l'ancêtre de FF14, Final Fantasy XI, qu'on n'oublie pas évidemment, hein, le jeu le plus rentable de Square Enix, le premier MMORPG de la saga FF, qui était aussi au TGS, mais cette fois plutôt pour faire ses adieux. Après 14 ans d'existence quand même, FF11 a lancé son dernier scénario, Rhapsodies de Vanadiel, et en gros c'est vraiment la clôture de cette épopée magnifique, parce que comme Fatshuko l'a dit, FF14 marche très très bien, donc il a pris un petit peu la relève. Donc voilà, il y a eu un nouveau trailer qui était très très émouvant. Si vous l'avez pas vu, vous pouvez le voir sur Final Land. C'est vraiment un très très beau trailer, plein d'émotions pour les fans de ce beau MMORPG qui va se terminer bientôt. Voilà, pour la petite note triste.
Alors juste, je sais pas si FF11 va fermer définitivement ou va passer free to play. Parce que je trouve que ce serait bête en fait de le fermer définitivement, alors que le faire passer free to play, ce serait un bon moyen pour des joueurs de découvrir l'univers de Vanadiel.
C'est pas faux, c'est pas
ce qui est mon cas.
Ouais, c'est le cas aussi, mon cas, c'est le cas beaucoup.
Ça peut être sympa, si je me trompe pas, ils ont annoncé justement un jeu mobile dans l'univers du 11
Grand Master.
Format free to play, oui.
Exactement.
Et FF11 sera. Ouais. Il y aura aussi FF11 sur mobile aussi. Donc, ouais. En plus de Grand Master, on pourra jouer à FF11 avec notre téléphone.
Voilà, vous avez aussi effectivement Grand Master qui va sortir prochainement, qui la continuité des FF11, mais cette fois sur smartphone. Pour vraiment les fans qui veulent continuer l'aventure, ce sera également free to play, donc ce serait bête de passer à côté. Cette fois, on va passer à un autre jeu qui s'est fait plus ou moins discret, mais qui était quand même une annonce sympathique. C'est un remake de Seiken Densetsu, donc le jeu qui est sorti sur Game Boy il y a très très longtemps, 91, sous le nom Mystic Quest à l'époque, et Final Fantasy Adventure en Amérique. Donc cette fois, il va revenir en remake, cette fois sur PS Vita, iOS et Android. Pour ceux qui n'ont pas pu y jouer à l'époque sur Game Boy, ou même sur Game Boy Advance plus tard, il est ressorti sous le nom de Sword of Mana à l'époque. C'est un jeu qui est beaucoup beaucoup ressorti et sorti, mais là, cette fois, c'est dernière itération pour vraiment découvrir le jeu qui est quand même une belle saga, la saga des Mana. Donc c'est une saga de RPG vraiment légendaire chez Square. Je pense que sur PS Vita et sur smartphone, c'est tout à fait indiqué pour découvrir ces aventures.
Disons également, son producteur a indiqué que si, qu'il aimerait justement également proposer le remake sur PS4, si on a la possibilité.
Ouais, ouais.
Et également porter les prochains épisodes de la même manière, en faire des remakes jusqu'à un nouvel épisode si Square Enix le permet.
Effectivement, ils ont parlé d'un nouvel épisode pour les 25 ans de la série de l'année prochaine, ouais. En 2016.
C'est ça.
Ça peut vraiment être intéressant aussi. C'est une saga que je connais pas très bien, mais que j'aimerais découvrir, donc pourquoi pas. D'ailleurs, Caspira, je vais te laisser la parole parce qu'on va parler de Brave Exvius. Si tu as quelque chose à nous dire là-dessus.
Oui, c'est le titre free-to-play de Square Enix sur mobile que j'attends le plus, qui à mes yeux est le plus ambitieux. C'est un titre qui a été annoncé il y a quelques mois, en même temps qu'une flopée d'autres titres comme la Portal App qui est arrivée il y a quelques semaines en Occident, avec le Triple Triade.
Ah, génial ça.
Plus ou moins, disons que... c'est un autre débat, mais j'ai été moins convaincu que pour Record Keeper, par exemple.
Moi, j'ai passé des heures là-dessus.
Oui, sur FF8, évidemment.
Ah, c'est sûr, à l'époque, ouais, c'était...
Bah, FF8, c'était un jeu de cartes, hein.
Oui, bien sûr. Ça l'est toujours.
Ça l'est toujours.
Concrètement, petite parenthèse, voilà, la Portal App, c'est une application qui n'est pas encore traduite avec l'actualité de Square Enix en anglais. Et à l'intérieur de cette application, il y a un bonus. C'est la possibilité de jouer au Triple Triade. Dans un système qui mérite d'être amélioré, qui incite pas à y revenir sans cesse.
Ouais, mais tu vois, quitte à lire des informations, autant aller sur Final Fantasy Dream, t'es d'accord avec moi?
Oui. J'ai été assez déçu en tout cas par cette version. Mais pour en revenir à Brave Exvius, donc en fait, Square Enix justement s'est associé au producteur de Brave Frontier, qui est un free-to-play qui cartonne sur iOS et sur Android. Et donc, on retrouvera justement tout le folklore de FF avec tous les personnages emblématiques, avec un système de combat qui sera extrêmement similaire. Je pense que Square Enix mise énormément sur ce projet, qui devrait sortir à l'automne au Japon. Ils ont fait appel à Yoshitaka Amano pour ce qui est pour réaliser différents artworks, pour donner une belle couleur artistique au jeu. Au niveau du scénario, ils ont fait appel à des têtes connues, également pour ce qui est de la musique. Donc c'est vraiment un titre que j'attends avec beaucoup, beaucoup d'impatience et qui pourrait être une excellente surprise. Lessa nous dira s'il connaîtra un succès à la Brave Frontier, qui est vraiment extrêmement populaire partout dans le monde. Mais si c'est le cas, on pourra dire que Square Enix aura tiré une belle carte sur le marché du mobile.
Merci beaucoup pour toutes ces informations, c'était très très bien détaillé, ça m'a presque donné envie de jouer parce que je ne connaissais pas tellement ce jeu, mais là c'est vrai que sur mobile, il n'y a pas. Square Enix s'en sort très très bien sur mobile en ce moment, donc ça peut être intéressant. Il y a eu d'autres informations importantes durant ce TGS, on en a parlé un petit peu déjà tout à l'heure, c'était des annulations de jeux. Donc Agitocus, on en a pas déjà parlé, mais il y a également eu FF7 G-Bike. Qui, pour mon cas, étant fan de FF7, j'attendais pas mal. Hein. Jouer à la moto sur mon téléphone, ça m'attirait bien, mais finalement il était annulé. Sans trop expliquer pourquoi, ils ont eu des contraintes techniques, etc. Mais finalement, le jeu ne verra jamais le jour. C'est vraiment dommage. Pachocobo, qu'est-ce que t'en penses de ça?
Alors le jeu il est sorti au Japon
Ouais.
et il a assez bien marché. Je l'avais testé sur mon téléphone, c'était très très mal optimisé. Donc après mon téléphone est quand même vieux donc voilà. Après J-Bike annulé, personnellement ça me fait ni chaud ni froid. Le jeu pouvait être cool comme passe-temps mais bon, mon amour pour les jeux mobiles c'est... Voilà.
Parce que t'es pas un gros fan de FF7, toi.
Ouais, je suis fan d'FF8, c'est ça.
Pour ça.
Non mais après J-Bike... C'est un jeu mobile bah, développé par CyberConnect 2, qu'on connaît pour les JoJo Battle All Stars et Naruto All Stars. Et peut-être, alors, c'est une rumeur, bah, il me semble qu'on en avait parlé dans le précédent podcast, mais Square Enix, donc pour le remake d'FF7, serait épaulé justement par un autre studio qui serait CyberConnect 2. Donc est-ce que cette annulation est liée pour renforcer justement les équipes de développement pour le remake?
Pourquoi pas, pourquoi pas.
Ah.
Monsieur Cloud, avec un pseudo pareil, tu dois être fan des FF7.
Bah oui, fan de FF7. Et après, l'annulation d'Agito, moi, c'est justement, c'est le contraire. L'annulation d'Agito m'a fait ni chaud ni froid. Je connaissais que d'assez loin. J'ai vu quelques images, mais sans plus. Par contre, J-Bike, d'ailleurs, je l'ai essayé récemment. Genre, j'ai chargé il y a un mois. Et franchement, j'ai passé de bons moments. C'est vraiment sympa de retrouver ce mini-jeu sur mon mobile. Enfin, c'est un petit jeu qui me fait pas vraiment passer le temps, quoi. Je trouve plus passionnant qu'Angry
Quelle comparaison!
Pourquoi pas?
Bah, je trouvais que c'était vraiment un très bon jeu sur mobile, un très bon petit jeu sur mobile.
Ouais, voilà, pour jouer dans le métro, etc., ça passe bien.
Ouais, voilà, ça passe nickel. Et en plus, il est. Franchement, je pourrais dire qu'il avait la classe. Il avait de la gueule, le jeu, moi, je
Ah
trouvais.
oui,
Alors,
il était super beau.
la mise en scène, le graphisme, il était pas mauvais. C'est vraiment
Ah,
dommage qu'il l'ait annulé, quoi.
c'était du recyclage de Dissidia, hein.
Oui, mais pour un mobile, je trouvais ça vachement impressionnant. Mais c'est vrai, effectivement. Dit comme ça, c'est vrai. Mince.
J'ai
Tu as gâché mes
détruit le
rêves.
mythe.
Skypirate, tu veux clore le sujet sur
Oui.
l'annulation?
Alors, pour Agito, moi, je suis vraiment très triste parce que c'est un jeu que j'attendais énormément et qui avait beaucoup de potentiel. Et j'y croyais dur comme fer dans la mesure où il y avait une deuxième saison. Donc, ça signifiait quand même que Square avait mis les moyens avec Agito Plus. J'espérais même manière un peu illusoire et jouer sur Vita. Néanmoins, je pense que ces annulations, elles en disent long sur la politique de Square Enix, qui s'est lancée un peu à corps perdu dans la production de titres free-to-play en se disant qu'effectivement, c'était la nouvelle poule aux œufs d'or et qu'il y avait une grosse manne financière en arrière, ce qui est vrai. En revanche, avec un peu d'expérience et un peu de recul, je pense qu'ils se rendent compte que tout ne fonctionne pas, que tous les modèles économiques ne se valent pas et qu'ils travaillent beaucoup plus justement sur la rentabilité des titres et qu'au-delà des qualités ou des problèmes d'optimisation, ils ne vont conserver et exporter que les titres qui vont fonctionner justement en Occident, comme Record Keeper qui fonctionne du tonnerre, qui est mis à jour très régulièrement au Japon et en Occident. Concernant Agito et J-Bike, je pense qu'ils ne voyaient pas d'avenir pour ces projets. Et je pense aussi que Square Enix, c'est une société qui a beaucoup d'orgueil. Avec Agito, il était supprimé, mais nous avons le droit aujourd'hui à l'annonce de Type-Zero Online. Et pour J-Bike, je pense que nous aurons quelque chose d'autre. De plus ambitieux avec un format économique qui sera beaucoup plus fiable pour eux.
Ah,
Mais
c'est sûr.
il y a beaucoup beaucoup de grosses boîtes hein, qui ont lancé des titres sur iOS, Android, des jeux qui ont eu un petit succès mais qui n'étaient pas assez rentables, qui ont été supprimés. Et c'est aussi le lot de ces jeux-là. C'est des jeux parfois qui sont un peu plus éphémères que d'autres. Ce qui est un peu frustrant, c'est de se dire que c'est des jeux où on peut dépenser beaucoup d'argent et certains joueurs s'investissent énormément et ils peuvent être supprimés, ne plus être suivis du jour au lendemain. Donc c'est vrai que c'est un système un peu particulier pour Record Keeper. Personnellement, j'ai déjà dépensé pas mal d'argent. Au Japon, pour D-Back, certains joueurs avaient dépensé également des sommes assez folles. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué d'annoncer aux joueurs qui sont investis en temps et en argent, de leur dire qu'à telle date, il n'y aura plus aucun soutien et que je ne serai plus mis à jour, tout simplement. Donc c'est difficile, mais c'est la dure loi des free-to-play, à mon avis.
Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi.
De toute façon, après, on aura du pachinko.
Oui,
sinon, Cloud, on s'en sert.
Ouais, oui. De toute façon, je pense qu'ils y prévoient des choses derrière. Je pense que c'est pas. Je pense que tout ça, c'est stratégique. Il y a quelque chose qui va se faire à l'approche du remix, etc. Donc, faut pas s'inquiéter. On verra bien par la suite. Bah, merci les gars pour toutes vos impressions sur ces jeux. On a fini la première partie du podcast. On va pouvoir enchaîner le gros morceau sur le jeu que tout le monde attend, FF15. Mais avant de poursuivre, j'ai un petit message spécial, les gars, de notre ami Fantôme Déconnecté. Vous le connaissez peut-être, c'est un compositeur français qui reprend le style de Nobuo Uematsu pour faire ses propres compositions. Il a d'ailleurs sorti son album tout récemment, Fantôme Déconnecté 5. Vous pouvez retrouver son album sur Facebook, sur sa page Fantôme Déconnecté. Vous pouvez le contacter si vous voulez d'ailleurs vous le procurer. Il y a pas mal de morceaux en libre écoute sur YouTube. Sachez également qu'on a lancé notre concours sur notre page Facebook, Finaland, la page Facebook. On a lancé un concours pour gagner 5 albums de Fantôme Déconnecté. Pour participer, il faut tout simplement donner la musique de FF7 que vous voudriez qu'il reprenne pour vous. C'est tout simple, allez jouer, nombreux, et maintenant son message, une petite surprise pour vous.
Salut à tous, c'est Fantôme Déconnecté. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour saluer toute l'équipe de Final Land et en particulier FF Fanatics. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager un morceau de mon dernier album en l'honneur des 20 ans de la PlayStation. Ah, la PlayStation. Je me rappelle l'avoir eu à Noël de 97 avec en prime Final Fantasy VII. Que de souvenirs inoubliables. En parlant de ça, voici un morceau qui fait référence à la même sensation, puisqu'il se nomme Souvenir 2.0.